Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon et Rosalie Suc, mais aussi Hélène Lefrançois et Bertie Bourdon, réalisée par Benjamin Huy, mise en onde ce matin par Clément Daté. Quatrième et dernier temps de notre série consacrée au grand chantier diplomatique de la rentrée à l'occasion de l'ouverture de la 74e Assemblée Générale des Nations Unies. Après avoir évoqué les nouveaux rapports de force au Moyen-Orient, les écueils de la diplomatie climatique, le rôle géopolitique des droits de l'homme, intéressons-nous ce matin à la guerre commerciale lancée par Donald Trump à l'encontre de la Chine au printemps 2018. Elle n'a cessé de s'intensifier depuis, franchissant un nouveau cap cet été avec l'annonce de surtaxes sur l'ensemble des produits chinois. Guerre commerciale, le jeu dangereux de Washington et Pékin, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
The most important difference.
La grande différence de l'approche américaine vis-à-vis des échanges concerne nos relations avec la Chine. Nous sommes en train de faire en sorte que justice soit faite. Nous avons perdu 6000 usines après l'adhésion de la Chine à l'OMC, et c'est le cas d'autres pays de par le monde. L'Organisation mondiale du commerce a besoin d'être réformée en profondeur. La deuxième plus grande économie au monde ne devrait pas pouvoir affirmer être un pays en voie de développement dans le but de contourner le système au détriment d'autrui. Pendant des années, on a toléré ces agissements, on a fermé les yeux, on les a même encouragés. Le mondialisme a amené les dirigeants à oublier leurs propres intérêts nationaux. Mais cette époque est révolue pour l'Amérique.
Le sujet était au cœur du discours du président américain à l'Assemblée générale de l'ONU ce mardi, alors que la perspective de nouvelles négociations à partir d'octobre laissait entrevoir la possibilité peut-être d'une détente. La véhémence des propos de Donald Trump à New York semble illustrer au contraire une poursuite des hostilités. De fait, au fil des mois, la guerre douanière entre Washington et Pékin s'est étendue à d'autres fronts. Le secteur des technologies, particulièrement visé par les États-Unis, fait désormais l'objet d'une lutte dépassant la question des taxes, avec la tentative américaine d'organiser un vaste boycott, notamment de Huawei, leader chinois de la téléphonie mobile. Le conflit prend également une dimension monétaire avec la vertigineuse chute du yuan observée cet été. Alors face à cet enlisement, va-t-il falloir choisir son camp dans une rivalité américano-chinoise non dénuée d'enjeux idéologiques ? Pour l'Europe, en tout cas, également visée par les restrictions budgétaires, les restrictions douanières, de Donald Trump, mais partageant en partie ses critiques vis-à-vis de la politique commerciale de Pékin, la situation est évidemment compliquée. Alors comment la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis se répercute sur l'économie mondiale ? Que traduit-elle des nouveaux rapports de force géopolitiques à l'échelle du globe ? Est-il possible d'y mettre fin ? Les différents acteurs impliqués ont-ils d'ailleurs seulement le désir ? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous ce matin. D'abord Jean-Marc Sirouane, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite de sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine. Alice Ekman, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes analyste responsable de la Chine et de l'Asie à l'EUISS, European Union Institute for Security Studies. Alors, lors de son discours à l'Assemblée Générale des Nations Unies, on va commencer avec ça, Donald Trump s'est montré quand même assez incisif à l'égard de la Chine. Le temps des abus commerciaux est révolu pour les États-Unis. Comment est-ce que vous interpréter l'un et l'autre, ce discours, la véhémence ou pas d'ailleurs, peut-être qu'il vous semble que Donald Trump a au contraire fait montre d'une certaine retenue. J'aimerais votre regard l'un et l'autre sur la manière dont il a abordé cette question de la guerre commerciale à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Commençons avec vous, Alice Ekman.
Oui, nous sommes à plus d'un an et demi de tensions commerciales aujourd'hui. Et à chaque fois, on se demande si États-Unis et Chine trouveront un accord. Et à chaque fois, on est déçu. Alors, beaucoup de questions restent en suspens. Mais ce qui est sûr, c'est que les tensions sont profondes. Vous l'avez évoqué, elles sont commerciales, mais elles sont aussi devenues technologiques. Elles sont aussi géostratégiques. Elles sont aussi conceptuelles et même, j'oserais dire, idéologiques. Donc, ça fait beaucoup le millefeuille, on va dire. Il y a des feuilles dans le millefeuille, des tensions Chine-États-Unis. Et puis, même si les deux pays venaient une raison ou une autre, on ne sait pas, puisque les relations internationales, il y a aussi une dimension humaine un peu imprédictible, mais même si un jour il venait à un accord sur les questions commerciales, cette période d'un an et demi, de œil pour œil, dent pour dent, tit for tat, réponse assez véhémente d'un côté comme de l'autre, laissera des traces profondes. Mmh. Et donc, tout m'amène à penser aujourd'hui pour dire que les tensions Chine-États-Unis sont de long terme et qu'elles sont structurantes pour le monde aujourd'hui. C'est-à-dire que certains pays, en effet, commencent à se placer dans un camp ou dans un autre. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais on ne peut plus faire abstraction de cette tension qui modifie les rapports de force en profondeur géopolitique au-delà de la région Asie-Pacifique.
Jean-Marc Sirouen, votre première impression sur la tonalité générale du discours de Donald Trump ?
Oh, ça dépend quelle période.
Quelle période du discours ?
Puisqu'il est plus ou moins du discours.
Du discours de cette discours semaine, de mardi,
oui. Oui, il me semble relativement modéré et assez habile. Il a notamment prononcé, on l'a entendu, le mot d'OMC, qu'il utilisait pas très souvent, sauf pour la critiquer ou la contourner. Donc il envisage une réforme de l'OMC, donc une réforme du multilatéralisme. De plus, il évoque des questions qui sont, je dirais, relativement consensuelles du côté des pays industriels, qui est le statut particulier dont bénéficient certains pays, dits en développement, par rapport aux règles de l'OMC. Donc il s'engage un peu sur la voie européenne, qui est d'essayer de remettre les choses en ordre en passant par l'Organisation mondiale du commerce, qui est quand même relativement nouveau. Et il ne faut pas oublier que la guerre commerciale qui effectivement a été déclenchée il y a 18 mois, en mars 2018, au départ c'était pas une guerre commerciale spécifiquement contre la Chine. C'est une guerre commerciale qui a commencé sur les taxations sur l'acier et l'aluminium, et l'Union européenne, le Canada, le Mexique, le Brésil étaient autant visés que la Chine. D'ailleurs, l'Union européenne a pris des mesures de représailles. C'est progressivement que ça a été orienté sur la Chine et sur ce que reproche à l'ONU le président Trump à la Chine n'est pas très différent de ce que reproche aussi l'Union européenne à la Chine.
Il y a d'ailleurs quelque chose qu'on peut noter, et je vous passe la parole à Alice Ekman, c'est que on parlera évidemment de la réforme de l'OMC, mais vu d'ici, on a parfois l'impression que Donald Trump est quelqu'un de particulièrement brutal et qu'il est extrêmement agressif dans cette guerre et dans cette phase, voire fièvre protectionniste. C'est des formules d'ailleurs qu'on a utilisées. Mais quand on regarde du côté états-unien, en réalité, il n'est pas aussi critiqué que cela sur ce point-là. Il y a même une forme de consensus quasiment sur ce protectionnisme états-unien.
Oui, Jean-Marc, mais sauf à quelques rares périodes de son histoire, les États-Unis ont toujours été protectionnistes. Oui. Il y a toujours eu un fort courant protectionniste.
Oui, on les pense champions du libre-échangisme parce que...
On pense à la référence, je dirais, post-rooseveltienne à la fin des années 40. Mais la tradition protectionniste a toujours été très forte. Avec un élément qui est apparu, il y a une trentaine d'années, c'est que notamment le Parti démocrate et les syndicats qui étaient plutôt libre-échangistes sont devenus plutôt protectionnistes. Donc vous avez les républicains dont une bonne partie est protectionniste pour un certain nombre de raisons, de souveraineté, d'isolationnisme, etc. Et les démocrates qui sont également devenus protectionnistes pour protéger l'emploi ouvrier dans les anciennes industries américaines.
Oui, y compris ceux qui sont vraiment de l'autre côté de l'échiquier politique, comme un Bernie Sanders, par exemple, qui d'une certaine manière se retrouve complètement là-dedans. Alice Ekman.
Oui, consensus bipartisan sur le protectionnisme, mais aussi sur l'évaluation de la menace chinoise. C'est-à-dire que républicains comme démocrates considèrent que la Chine aujourd'hui est une menace pour les intérêts américains et qu'il faut agir. Donc c'est aussi ce consensus-là qui m'amène à dire que les tensions sont de long terme parce qu'il y a une perception de la menace qui est assez homogène, on va dire, aux États-Unis, qui est parfois aussi différente de certains États membres de l'Union européenne. Et côté chinois, il y a également un fort ressentiment anti-américain au sein du Parti communiste. Et donc l'un comme l'autre voit Washington ou Pékin comme une menace. Et ça, c'est aujourd'hui très structurant sur l'avenir des relations bilatérales Chine-États-Unis. Pour rebondir sur le propos précédent, si c'est vrai que la Chine se positionne toujours comme pays en développement, aujourd'hui plus que jamais, et ça suscite un certain nombre de questions, parce que ce statut accorde des avantages, par exemple sur les questions climatiques, mais aussi à l'OMC ou d'autres institutions. Et alors la Chine aujourd'hui à la fois se positionne comme un pays en développement, mais en même temps, depuis Hu Jintao, mais encore plus avec l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir fin 2012, elle souhaite restructurer la gouvernance mondiale et se positionner comme une puissance responsable qui comblerait le vide laissé par les Américains, qui se désengagerait du multilatéralisme. terrorisme. Alors, dans les faits, c'est faux, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Mais c'est vrai que la Chine a beaucoup investi, même aussi, elle a parlé elle-même de réformer l'OMC. Alors, dans des termes particuliers, puisqu'elle se pose comme le garant du libre-échange, mais les États-Unis disent, mais c'est le monde à l'envers, c'est Alice au pays des merveilles, vous parlez de libre-échange alors que vous-même, votre économie n'est pas ouverte, etc. Et donc, il y a un débat sur les mots de plus en plus fort, mais c'est vrai que la Chine a mener une diplomatie très active pour s'intégrer dans les institutions multilatérales qu'elle considérait pouvoir réformer de l'intérieur, mais aussi en créant de nouvelles, comme la Banque asiatique de développement pour les infrastructures en 2014. Et on n'est qu'au début de cette stratégie de création d'institutions multilatérales qui
alternative,
ouais. Mais qui ont vocation, selon la Chine, à faire référence. C'est comme le forum sur les routes de la soie, qui est un forum multilatéral très flexible, informel, qui ne s'est pas encore positionné comme un forum de référence. Mais c'est déjà la deuxième édition que la Chine organise à Pékin. Elle a réuni 37 chefs d'État, ce n'est pas rien. Et à terme, elle aimerait que ça devienne un forum de référence sur un thème finalement un peu fourre-tout, mais qui permettrait de réunir autour d'un agenda rédigé par la Chine, un agenda multilatéral, un grand nombre de pays qui progressivement constitueraient ce que Xi Jinping appelle le cercle de pays amis de la Chine. Donc on a vraiment aujourd'hui un activisme très fort au niveau multilatéral côté chinois.
Alors on va regarder justement dans un instant les enjeux multilatéraux et voir comment effectivement les choses pourraient se régler ou pas dans le cas notamment de l'OMC. Mais d'abord, regardons les choses, la confrontation directe, Jean-Marc Serouen, et du coup les négociations bilatérales. On a eu des messages extrêmement contradictoires de la part de Washington. Parfois, on nous dit ça y est, on y est quasiment, on a presque un accord. Et puis d'autres fois, on nous dit oh non, on est très 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 loin du compte. On en est où là, très concrètement? Je crois qu'il y a un round de négociations qui devrait commencer début octobre. On en est où? Est-ce que oui ou non, on est proche d'un accord?
Ça, avec la politique américaine, on ne sait jamais si on est proche d'un accord ou si on s'en éloigne. D'ailleurs, c'est un peu alternatif. Après s'être approché, on s'éloigne. Oui, il y a une série de négociations qui doivent commencer début octobre. Le président Trump a suspendu jusqu'au 15 octobre de nouvelles mesures de rétorsion qui vont être colossales, puisque une bonne partie des importations chinoises risquent d'être taxées à 30% l'année prochaine et l'autre partie à 15%. Donc c'est effectivement une hausse considérable des droits de douane. Est-ce qu'il osera? Est-ce que l'administration américaine osera? Je ne sais pas. Les mesures de représailles de la Chine sont nécessairement limitées puisque la Chine apporte beaucoup moins des États-Unis que l'inverse. Donc l'impact pour la Chine est plus faible. Donc les moyens de représailles de la Chine sont plus faibles. On est dans un jeu de rapports de force, de bluff, de ce que Donald Trump adore particulièrement, qui est la négociation et justement utiliser le rapport de force dans la négociation. À l'intérieur des États-Unis.
Il veut un deal. Est-ce que vraiment il veut un deal? On n'arrête pas de dire que c'est un homme de deal. Évidemment, on le sait, ça fait des années, des mois qu'on le répète. Est-ce qu'il veut un deal avec la Chine?
Le problème, lorsque on monte les enchères, c'est que lorsque l'on cède, on s'humilie. Il veut certainement un deal. Comme dans un autre domaine, Boris Johnson veut un deal aussi, mais un peu comme Boris Johnson.
C'est-à-dire que d'accord, j'ai compris.
On ne sait pas trop s'il veut vraiment le deal ou pas. Je pense que l'échéance présidentielle américaine est importante aussi. Dans son calendrier, il y a quand même l'élection américaine. On a dit tout à l'heure que finalement, il n'était pas tellement critiqué sur la question des droits de douane et que s'il cède trop vite est trop fort, ça risque de le contredire et de le mettre dans une position de faiblesse.
Donc il a besoin de se montrer ferme.
Il a besoin de montrer ses muscles.
C'est important du point de vue de la politique intérieure. Alice Ekman, qu'est-ce que vous comprenez de ce que veut Trump ou pas? Et peut-être que je peux introduire là une autre figure qui va nous permettre de comprendre ce qu'il y a derrière lui, parce qu'il a aussi évidemment des conseillers, Donald Trump, et c'est important de regarder qui ils sont, et en particulier sur la politique chinoise. Et alors là, il faut introduire une figure, celle de Michael Pillsbury, qui est celui qui murmure à l'oreille de Trump et qui, d'une certaine manière...
Parmi d'autres,
oui. Mais il est visiblement très, très important. Il avait écrit un livre. Alors, vous allez nous dire s'il est si important que ça. J'ai cru comprendre qu'il est important. Il avait notamment écrit un livre qui était intitulé The 100 Year Marathon, qui était sous-titré la stratégie secrète de la Chine pour remplacer les États-Unis comme puissance globale. Qu'est-ce qu'il y a? Alors d'abord, est-ce qu'il est aussi important, ce Pillsbury? Et quelle est sa vision des choses? Qu'est-ce qu'il murmure à l'oreille de Trump quant à la stratégie à adopter avec la Chine?
J'ai eu l'occasion de le croiser dans une conférence, mais je pense qu'il ne faut pas surestimer son influence. D'accord. Parce qu'il n'est pas le seul à conseiller Donald Trump. Mais ce qui est sûr, c'est que Donald Trump est entouré de personnes qui connaissent quand même relativement bien la Chine et qui ont une approche plutôt dure vis-à-vis de la Chine. En fait, la méthode actuelle est de considérer que pendant trop longtemps, les États-Unis ont dialogué avec la Chine sans parvenir à des résultats concluants dans les intérêts des États-Unis et qu'il est temps aujourd'hui de changer de méthode et donc de développer une approche dure, celle des sanctions, car le dialogue ne porte pas ses fruits. Donc on a beaucoup de demandes, c'est pour ça que je me pose la question d'un accord, parce qu'en fait, la recherche d'un accord ne porte pas sur des sujets très très précis. Les requêtes américaines sont assez larges. C'est sur c'est des attentes concernant la propriété intellectuelle, la protection de cette propriété intellectuelle, l'accès au marché, bien sûr, mais aussi la transparence. Et puis, de manière générale, nous sommes aujourd'hui dans une compétition entre la première et la deuxième économie mondiale. Donc, il y a une compétition économique, technologique, mais aussi une compétition politique, parce que c'est aussi une remise en cause du système politique chinois côté américain, qui est considéré comme illégitime, mais aussi dangereux en Asie-Pacifique et au-delà. Donc on a vraiment aujourd'hui, je pense, une remise en cause aussi du rôle de l'État dans l'économie en Chine. Et depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, le rôle de cet État ne s'est pas amoindri. Au contraire, Xi Jinping a renforcé le poil des cellules du parti dans les entreprises publiques, mais aussi les entreprises privées. L'économie reste planifiée, même si ce n'est pas la planification stricte comme sous l'ère maoïste, mais ça reste une économie planifié, très centralisé, avec une institution qui est la Commission pour la réforme et le plan, la NDRC, qui reste très influente, avec une longue liste de secteurs stratégiques dans lesquels les entreprises étrangères ne peuvent pas être présentes et répondre aux appels d'offres pour les marchés publics. Donc il y a un contexte particulier qui est remis en cause côté américain, qui est aussi remis en cause côté européen, sauf que côté européen, la méthode est de se dire que le dialogue peut être encore utile ou qu'il faut encore essayer de dialoguer dans une certaine mesure. Mais le diagnostic est relativement partagé sur l'état de l'ouverture du marché à Bruxelles et à Washington.
Et la posture chinoise, elle répond à la posture américaine. Je veux dire, la rigidité dont fait preuve l'administration américaine, on répond avec la même rigidité du côté chinois, ou est-ce qu'on se dit on va faire un tout petit peu le dos rond, on va attendre que ça passe et puis on verra?
Non, avec la même rigidité. Ouais. Lorsque l'administration Trump a diffusé une liste d'entreprises qui n'étaient considérées comme un peu fiables, etc., Pékin a annoncé en mai dernier, quelques mois après, qu'elle allait également sortir sa propre liste noire d'entreprises étrangères considérées comme non fiables par le gouvernement, et c'est notamment en réponse à l'offensive américaine contre Huawei. On n'a pas encore cette liste, mais on a vraiment là une approche œil pour œil, dent pour dent. Et cette approche, d'ailleurs, ne concerne pas que les questions économiques. C'est pour ça que je replace toujours cette rivalité dans un contexte politique et géostratégique, parce que c'est la réalité de la situation aujourd'hui. Quand les États-Unis diffusent un rapport sur les droits de l'homme qui remet en cause aussi certains éléments du contexte chinois, les gouvernements chinois publient un rapport quelques mois après sur les droits de l'homme qui remet en cause l'état des droits de l'homme aux États-Unis. Donc vous voyez bien qu'on en approche œil pour œil, dent pour dent, très précis. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la Chine aujourd'hui cherche à exporter son modèle de développement économique et son modèle de réforme dans un nombre croissant de pays, notamment des pays en développement. Justement, elle se positionne comme un pays en développement en se disant solidarité sud-sud, nous sommes là pour nous aider dans un nouveau modèle de développement de croissance. Bien sûr, ça c'est de la communication et il faut lire entre les lignes. Mais nous sommes vraiment là dans une compétition entre systèmes politiques et la Chine maintenant, via par exemple des programmes de formation à des fonctionnaires et diplomates africains, explique que l'économie planifiée a du bon, explique que les zones économiques spéciales telles qu'elles se sont développées sur son propre territoire, c'est un succès pour le développement économique à long terme, explique aussi que la gestion des villes, la gestion urbaine, smart cities telles qu'elle commence à développer et investir ce créneau sur son territoire aussi a du bon. Elle aide aussi à développer la 5G Huawei et d'autres technologies dans lesquelles elle a largement investi à l'étranger. Donc il y a vraiment une compétition à beaucoup de niveaux. Et la question du choix qui se pose en Europe, du côté de l'alliance, c'est plutôt le choix naturel en fonction de l'histoire de sécurité, l'histoire stratégique des pays, ou plutôt une approche ouverte vis-à-vis des technologies chinoises. Cette question-là du choix nous se pose beaucoup moins dans certaines régions, et y compris en Afrique ou dans certaines aussi régions comme en Asie du Sud-Est. Donc, Je pense réellement que la compétition est ouverte, est à plusieurs niveaux et ne doit pas être sous-estimée parce qu'un règlement des tensions commerciales ne réglera pas ces tensions profondes.
Jean-Marc Sirouen, je me tourne vers l'économiste. Vous allez nous aider un peu à comprendre les conséquences sur le plan économique, à la fois pour les États-Unis, mais aussi peut-être pour la Chine, mais aussi peut-être pour l'Europe. Commençons peut-être par les États-Unis. Il y a eu toute une série de sanctions avec des contre-sanctions. Évidemment, monter les prix de douane, ça a des conséquences pour le consommateur américain. On l'a d'ailleurs vu très clairement lorsque Donald Trump a décidé de repousser certaines d'entre elles à après Noël pour éviter que ça ne gâche, c'est ce qu'il avait dit, le Noël des consommateurs américains. Pour les États-Unis, dans un premier temps, est-ce qu'on a une idée des conséquences de cette guerre commerciale pour le consommateur américain? Parce que la question qu'il y a derrière, c'est aussi de savoir qu'est-ce qui reste encore comme marge de manœuvre au président. Est-ce qu'il peut encore monter en pression?
Si on regarde les conséquences sur le PIB à partir des modèles, je dirais, traditionnels des économistes, il y a des conséquences négatives, mais qui sont, je dirais, relativement modérées. Bon, quelques points de PIB, c'est pas rien, mais c'est pas un effondrement total. On insiste beaucoup dans l'analyse sur les effets pour les consommateurs. Donc c'est vrai que lorsqu'on importe un bien de consommation chinois, il est taxé, il est donc plus cher. Mais il ne faut pas oublier également les conséquences pour les entreprises, les principaux, les parties prenantes du commerce international, ce sont les entreprises. On a un modèle qui s'est mis en place grâce notamment à l'ouverture chinoise et aux zones économiques spéciales dont on parlait tout à l'heure. Un modèle où la Chine était devenue le sous-traitant du monde, très utile pour les firmes américaines. Pas que les firmes américaines, mais aussi les firmes américaines. Ce qui fait que les États-Unis exportent des composants électroniques qui vont réimporter en important des smartphones ou des tablettes qui contiennent non seulement d'ailleurs des composants américains, mais également des composants japonais, coréens, philippins, etc. Donc finalement, lorsque les États-Unis se plaignent des importations chinoises, ce sont des importations qui sont souvent, notamment pour les produits de haute technologie, très faiblement chinoises. Elles sont en réalité fabriquées ailleurs, y compris aux États-Unis. Et ça, des entreprises comme Apple, ça l'obligerait, notamment dans le cas de représailles, à la fois dans le cas de représailles chinoises qui porteraient sur les composants et d'une augmentation des droits de douane sur les produits réimportés, des firmes comme Apple seraient particulièrement perdantes, et notamment les entreprises de haute technologie seraient perdantes. Et je crains que les modèles économiques traditionnels sous-estiment un petit peu cette évolution spectaculaire de l'économie mondiale à partir des années 90 et qui explique largement la croissance du commerce international pendant cette période, qui est cette division des processus de production avec un quasi-monopole de la Chine, qu'elle a un peu perdu aujourd'hui, mais qui reste fort, sur l'assemblage des produits de haute technologie.
Jean-Marc Sirouen, si on élargit un tout petit peu, les répercussions sur l'économie mondiale en général. Il y a eu très récemment un rapport de l'OCDE, une nouvelle projection de l'OCDE qui nous parle d'une croissance à 2,9% et qui est un peu en dessous des anciennes prévisions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, l'ensemble du monde commence à être impacté par tout cela et jusqu'où ça pourrait nous mener? C'est-à-dire jusqu'où est-ce que l'économie mondiale pourrait-elle ralentir?
Si elle ralentit, c'est pas uniquement à cause de la guerre commerciale. Ouais. Il y a beaucoup d'événements qui font que la croissance économique est plutôt plus faible que ce qui avait été prévu il y a un ou deux ans. En soi, encore une fois, mécaniquement, les effets sont modérés, 1 ou 2% ou 3% de points de PIB. Alors c'est important, c'est une crise économique, quand le PIB baisse de 2-3%, c'est pas un effondrement. Sauf que l'économie mondiale est très fragile par ailleurs. Et ce que l'on peut redouter, c'est l'effet battement d'aile de papillon, c'est-à-dire que, avec en plus la guerre commerciale, une économie mondiale déjà fragile, précipite, peut avoir plusieurs scénarios, la chute des banques engagées sur les entreprises exportatrices ou un tas d'autres scénarios.
Sans compter que ce que dit aussi l'OCDE, c'est qu'il va falloir que les États réagissent et notamment réagissent en relançant. Pour relancer, faut-il encore avoir les moyens de le faire? Est-ce qu'on a encore les moyens de le faire?
Alors, les taux d'intérêt négatifs favorisent certes l'endettement, mais en soi, c'est un peu C'est un peu lancer du pétrole lorsqu'il y a déjà l'incendie. Hein. Non, on n'a plus les moyens de le faire. On n'est pas sorti de la crise de 2008. Hein. Tant qu'on aura des taux d'intérêt aussi bas et même négatifs dans certains pays, on ne pourra pas dire qu'on est sorti de la crise. Donc on n'est pas sorti de la crise, on risque d'avoir un nouveau choc. Donc il risque effectivement d'être dramatique et la guerre commerciale, évidemment, ne favorise pas les choses.
Alice Ekman, sur les conséquences, peut-être essayer de nous aider à comprendre les conséquences pour la Chine. Et de la manière, c'est toujours un peu difficile hein, d'avoir des informations très précises parce que les chiffres en Chine, il faut toujours un tout petit peu se méfier. Mais est-ce qu'on a une idée de l'impact sur les exportations, des conséquences pour les entreprises chinoises? Comme le disait Jean-Marc Sirouen, c'est aussi important de regarder ce paysage-là. Est-ce qu'il y a des usines qui ferment? Est-ce qu'il y a du chômage qui augmente à cause de tout cela? Enfin, concrètement, c'est quoi les conséquences en Chine?
Tout d'abord, on est dans un contexte général de ralentissement progressif de la croissance chinoise depuis plusieurs années, un ralentissement structurel, mais qui est ressenti quand même par un certain nombre de foyers chinois qui étaient habitués à une croissance à deux chiffres dans les années 90, au début des années 2000. Donc, il y a déjà ce contexte-là de ralentissement qui suscite un certain nombre d'inquiétudes à la fois de la part des foyers, mais aussi du gouvernement. Ensuite, voilà, il est difficile d'évaluer clairement les conséquences spécifiques de la guerre commerciale aujourd'hui. Mais certains chiffres indiquent que des secteurs sont touchés, les nouvelles technologies, le secteur automobile et de manière générale, un certain nombre d'entreprises chinoises sont dans l'obligation de réajuster leur chaîne d'approvisionnement parce que elles ne peuvent plus travailler ou on va dire assembler leurs produits conjointement avec des entreprises américaines, notamment celles dans des secteurs qui sont considérés comme sensibles par Washington. Et la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est celle du découplage. Alors, les Américains parlent beaucoup aujourd'hui à Washington de decoupling, c'est-à-dire la question de l'interdépendance économique entre la Chine et les États-Unis. On a souvent dit que les marchés étaient fortement interdépendants, ce qui est vrai. Et donc, compte tenu de certaines dépendances, on ne pourrait pas arriver à une situation de guerre froide avec deux blocs distincts qui s'opposeraient parce que voilà, les économies sont liées et que nous sommes dans une nouvelle ère qui est bien différente de celle de la guerre froide. Certes, mais aujourd'hui, la question de Huawei pose un certain nombre de questions. Par exemple, aujourd'hui, Huawei n'est plus compatible avec Android progressivement. Donc Huawei même dit, le CEO de Huawei dit, nous allons développer nos propres technologies pour ne plus être dépendants des technologies américaines. De toute manière, l'entreprise n'a pas le choix. Donc, à court terme, aujourd'hui, c'est difficile pour les entreprises technologiques chinoises parce qu'elles accusent le coup. Moi-même, l'entreprise elle-même a perdu certains marchés, qui, notamment dans des pays alliés les États-Unis, qui ont suivi l'appel des États-Unis pour bannir les technologies 5G. Mais en même temps, l'entreprise, comme d'autres entreprises qui sont sur la liste noire américaine, comme Ixvision, par exemple, les caméras de vidéosurveillance, comme des entreprises de composants électroniques, investissent massivement en recherche et développement avec l'aide du gouvernement chinois, puisqu'on reste dans une économie planifiée avec un fort rôle de l'État dans l'économie. Donc, investissent massivement pour préparer l'après. C'est-à-dire qu'à court terme, beaucoup d'entreprises accusent le coup. Mais elles investissent pour pouvoir développer leur propre technologie, pour pouvoir réajuster leur chaîne de provisionnement et être plus autonomes. Et donc, peut-être que finalement cette guerre commerciale sera un accélérateur d'innovation, guidée et centralisée en Chine, mais qui lui permettra d'être moins dépendante à terme. Et c'est vraiment l'objectif politique qui est affiché déjà depuis longtemps, y compris dans le cadre des nouvelles routes de la soie. La Chine est trop dépendante des infrastructures étrangères, des câbles sous-marins, des satellites, des ports, des aéroports, des routes, etc. Et de tous ces, finalement, cette structuration de la mondialisation. Et il est temps que la Chine puisse davantage être autonome dans l'acheminement de ses marchandises, mais aussi dans le contrôle de ses données, etc. Et on s'oriente vraiment vers cette question-là du découplage. Alors moi, de mon approche géopolitique, je pense que l'hypothèse d'un découplage économique n'est pas irréaliste. C'est-à-dire, en tout cas, en analysant les discours chinois, il y a une vraie, réelle volonté d'être moins dépendant donc des infrastructures et des services américains mais aussi européens. Et donc à terme, la Chine pourrait proposer une nouvelle forme de mondialisation qui soit finalement régie par des normes, des standards, des institutions et des infrastructures chinoises. Et je pense par exemple au réseau satellitaire Beidou que la Chine développe actuellement. Et donc ça, c'est très intéressant.
Jean-Marc Sirouen, on va parler dans un instant de l'OMC parce que c'est évidemment central, mais ce qu'explique Alice Ekman, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que on est peut-être en train de vivre le début d'une forme de démondialisation avec une fragmentation économique du monde. Ça fait des années qu'on nous dit, voilà, ça y est, on est dans un univers économique totalement globalisé où tout le monde est totalement interdépendant. En réalité, on a peut-être commencé une phase inverse. Qu'est-ce que vous en pensez, vous,
Jean-Marc Sauvagne ? Phase de doute, certainement, que la forme de mondialisation passée soit remise en cause, c'est sûr, mais comme on vient de le dire, hein, inventer une nouvelle mondialisation, c'est pas une démondialisation. Donc je suis pas sûr qu'on se démondialise aussi rapidement que cela. Alors pour rebondir sur ce qui vient d'être dit.
Pardon, mais si oui. Vous avez un découplage, si on va vers un découplage des économies chinoises et des économies américaines, on a quelque chose qui ressemble à une forme de démondialisation.
Non, le découplage, s'il a lieu, il se fait pas du jour au lendemain. Hein. Donc il faut quand même très longtemps pour le faire. Et je dirais que ça va contre l'histoire. Il peut y avoir cette phase-là, effectivement, de découplage. Mais l'histoire, quand même, c'est une division du travail qui est devenue de plus en plus internationale. Et je ne crois pas que la Chine pourra toujours conquérir l'ensemble de la filière, que les matières premières vont devenir chinoises et que la dépendance vis-à-vis de certaines technologies vont toutes devenir chinoises ou européennes ou américaines sans possibilité de connexion entre ces ou de compatibilité entre ces technologies. Donc je serai assez prudent. Il y a certainement une nouvelle mondialisation. La phase passée de mondialisation fondée notamment sur la décomposition des processus de production va certainement se ralentir, pas nécessairement s'arrêter. C'est-à-dire le rôle d'atelier du monde va certainement plus être joué par la Chine, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Le Vietnam, l'Afrique, l'Afrique, etc. Alors par contre, je rebondis sur ce qui a été dit. Une des difficultés des États-Unis avec la Chine, c'est justement son programme de reconquête des filières de production, et notamment cette fragmentation, notamment le programme Made in China 2025.
China 2025.
Bon, qui est explicitement, effectivement, ce programme très planifié, très bon. Mais s'opposer à la Chine maintenant, c'est un peu stupide de la part des États-Unis, parce que c'est encourager la Chine à accélérer ce programme. Si la Chine ne peut plus disposer des composants électroniques américains, voire même s'il y a un embargo à la Huawei chinois, coréen, etc., c'est une incitation à la Chine à développer ses propres filières de production.
De toute façon, elle le faisait déjà.
Bah oui et non, parce que sa compétitivité était loin d'être acquise. Dans tous les biens. Pour la plupart des composants électroniques, pour l'instant, la Chine n'a pas très bien réussi à trouver l'alternative. Si elle l'a obligée par les guerres commerciales actuelles, eh bien, ça va forcément l'accélérer. Alors, à noter que si elle accélère sur les composants électroniques, elle l'accélérera un peu moins dans d'autres secteurs, parce que la Chine non plus, aussi grande soit-elle, ne peut pas tout faire.
Alors, on va parler de l'OMC, je m'y engage, mais c'est quand même assez passionnant tout ce que vous nous racontez là, et je voudrais peut-être qu'on regarde du coup les conséquences pour l'Union européenne de ce découplage, alors démondialisation peut-être pas, mais cette forme de fragmentation comme ça de l'économie mondiale. Conséquences pour l'Union européenne. Comment est-ce qu'on doit se placer là-dedans? On voit bien qu'il y a encore des hésitations, c'est-à-dire que d'un côté, l'Union européenne continue de passer un certain nombre d'accords de libre-échange avec des pays, avec le Canada, avec le Japon, etc. En même temps, on voit bien qu'il y a des hésitations. C'est le cas, par exemple, avec l'accord de libre-échange qui a été suspendu avec le Mercosur. Donc, finalement, quel chemin devrait prendre l'Union européenne? Celui du libre-échangisme, on continue sur ce chemin, ou est-ce qu'il faut peut-être envisager autre chose et prendre le chemin du protectionnisme comme le font les États-Unis? Alice Eckmann.
Il y a plusieurs mois, l'Union européenne a adopté un mécanisme d'évaluation des investissements étrangers dans les secteurs considérés comme sensibles. Cela touche aussi, bien sûr, donc les investissements chinois sur le territoire européen. Donc, cette proposition qui avait été initialement avancée par la France, l'Italie et l'Allemagne, aujourd'hui est adoptée. Donc, ça marque finalement une évolution de la réflexion côté européen qui aujourd'hui brasse beaucoup le terme d'autonomie stratégique. C'est-à-dire comment...
Un autre nom pour le protectionnisme.
Voilà, alors après, il ne faut pas rester dans le politiquement correct, parce qu'il y a à la fois ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau européen, il y a une différence de culture économique entre les États membres aussi. Certains pays ont un rôle, défendent un rôle de l'État plus ou moins fort que d'autres dans l'économie. Et donc, là-dessus, il y a une réelle discussion qui est assez intéressante à Bruxelles sur le degré de protectionnisme, en tout cas d'autonomie à développer ou de quel type d'approche avoir vis-à-vis des investissements étrangers sur le territoire européen dans des infrastructures critiques, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient concernant les nouvelles technologies, les données, etc. Donc il y a un vrai débat là-dessus. Mais la question, est, par exemple aussi en France, qui est très développée, c'est celle de l'autonomie stratégique, c'est-à-dire comment l'Europe peut tracer sa propre voie, c'est-à-dire comment ne pas agir uniquement en réaction. Par exemple, l'Europe a développé ce plan de la connectivité, alors c'est-à-dire initialement, cette réflexion a été développée suite au projet chinois des nouvelles routes de la soie, puisque les nouvelles routes de la soie, c'est quand même un projet qui pose des questions pour le territoire eurasiatique en termes de structuration des infrastructures de transport, notamment. Donc, a émergé. En fait, ce qui est intéressant, c'est que comme la Chine a une réelle stratégie et est tout concernant à l'initiative, ça amène un certain nombre de pays, y compris européens et l'Union européenne, à booster, à développer sa propre réflexion stratégique. C'est-à-dire, pour ne pas être en réaction, il faut pouvoir aussi avoir une vision de long terme et aussi une autonomie sur les données, sur les infrastructures, etc., critiques, etc. Alors, est-ce qu'elle y arrivera? On ne sait pas encore. Tout dépend des secteurs. Mais une chose est certaine, c'est que le débat réellement et même la prise de décision s'oriente vers une définition plus claire d'une vision stratégique qui permettrait aussi à l'Europe de rester une puissance normative, parce qu'on critique souvent l'Europe en disant qu'elle n'est pas à la hauteur, etc. Mais c'est une puissance normative, c'est-à-dire que les normes européennes, c'est quelque chose.
Et puis même dans différents secteurs.
Même aujourd'hui, la RGPD, la législation sur les données, ça a des conséquences aussi pour les entreprises étrangères qui souhaitent développer certaines activités sur le territoire européen.
Une réaction, Jean-Marc Sirouen, et puis ensuite, on passera à l'OMC quand même. Sur la manière dont l'Europe réagit justement à tout cela.
Oui,
s'autonomise ou passe la vitesse du protectionnisme.
Je rebondis sur les normes. L'Union européenne est très très forte pour fixer des normes juridiques et réglementaires. Mais par contre, sur les normes technologiques, l'Europe est très en retard. Il n'y a pas de système d'exploitation et de perspective de système d'exploitation européen. Et ça, c'est quand même une grosse faiblesse de l'Europe. L'autre faiblesse de l'Europe, on la connaît, c'est que la vision de la mondialisation n'est pas la même selon les pays. La vision française n'est pas la même que la polonaise ou que la néerlandaise. Et on est toujours sur le compromis. Et c'est un compromis qui est assez largement, je dirais, l'ancien monde, c'est-à-dire la période des années 2000, d'accords bilatéraux de libre-échange, où on introduit dans ces accords, justement, ça fera peut-être la transition avec l'OMC, on introduit dans ces accords tout ce qui ne peut pas être négocié à l'OMC. Donc l'alternative, ça a été ces différents accords. On voit la fin, là aussi, de cette période d'explosion des accords commerciaux bilatéraux, pas uniquement sous la pression des opinions publiques, bien que ça compte, mais aussi parce qu'on en voit bien les limites.
Ouais. Alors justement sur l'OMC, parce qu'on disait tout à l'heure que finalement, il n'y a pas pour l'instant grand-chose à attendre d'un accord bilatéral entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que l'OMC pourrait être un cadre de résolution de ce différend commercial entre les deux pays? D'abord, il faut peut-être rappeler qu'il y a des plaintes qui ont été déposées à l'OMC par la Chine, par l'Europe, notamment sur la question de la hausse de l'année dernière des droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Où est-ce qu'on en est? Et de façon générale, est-ce que l'OMC peut être un acteur ou non du règlement de ces différends commerciaux? Jean-Marc Sirouen.
Il devrait l'être. La création de l'OMC en 1995 avait pour fonction presque principale de le faire, et ça a pas trop mal marché depuis lors. Le seul problème, c'est que le souverainisme de l'administration Trump a commencé par viser explicitement cette procédure de règlement des différends, qui va être dans quelques mois vraisemblablement paralysée pour des raisons de nomination de juges à l'organe d'appel. Je passe, mais en tout cas, les États-Unis ont tout fait pour bloquer cette procédure de règlement des différends. Ce qui signifie que les plaintes qui ont été déposées, quel que soit le pays d'origine, ont peu de chances, dans la situation actuelle, d'être résolues. Donc il y a une volonté très forte des États-Unis, après avoir un peu saboté les négociations multilatérales, avant l'administration Trump, ça date de Bush et d'Obama, de saboter ce qui fonctionnait encore à peu près bien, qui était la procédure de règlement des différends, qui est effectivement quelque chose de très grave et qui montre bien que la conception américaine, géopolitique, je dirais, américaine, c'est bien l'unilatéralisme. Les autres administrations étaient unilatérales, mais en même temps, lorsque ça leur convenait mieux, elles pouvaient être bilatérales, elles pouvaient être multilatérales. Avec Donald Trump, c'est, je dirais, l'unilatéral, le rapport de force, quitte à faire des petites négociations.
Mais il était un peu plus nuancé sur ce point, justement, dans son discours de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont on entendait un extrait tout à l'heure.
C'est ce que j'ai souligné. Ouais,
Alice Eggman, comment est-ce que vous voyez justement ce rôle de l'OMC, aussi peut-être la question de la perspective ou non d'une réforme? C'est évidemment quelque chose dont on parle depuis très longtemps. Est-ce que les Chinois, par exemple, y seraient favorables? Comment vous voyez les choses?
Je vois beaucoup de confusion, en fait, parce que plusieurs pays se positionnent comme des puissances réformatrices, mais on ne parle pas du tout de la même réforme et on manie aujourd'hui les mêmes termes en voulant dire des choses très différentes. Et j'insiste sur cet écart de définition. Mais justement, le libre-échange, en fait, beaucoup de pays ont considéré que l'accession de la Chine à l'OMC en 2001 allait aider progressivement à l'ouverture économique de la Chine. Mais la réalité des faits montre que non. On s'est trompé, quoi.
Naïveté, on n'a pas compris quels étaient les réels objectifs, les réelles intentions chinoises?
Je pense qu'on n'a pas... Déjà, on n'a pas forcément anticipé que les dirigeants ne s'inscriraient pas tous dans les pas de Deng Xiaoping. Ouais. Mais on n'a aussi pas anticipé, ou pas peut-être assez cerné, la spécificité du modèle politique économique chinois. C'est-à-dire que, certes, on a surévalué, en fait, le mot « ouverture » prononcé par Deng Xiaoping. C'est-à-dire Deng Xiaoping a essayé de composer avec les forces les plus extrêmes au sein du parti, à la fois les communistes durs qui voulaient maintenir une économie collectiviste, etc., et puis les partisans de l'ouverture. Mais aujourd'hui, on voit bien que, plus que jamais, la Chine se réfère au socialisme, que le communisme est présenté comme un idéal par le Parti communiste chinois, et surtout, très intéressant, que le capitalisme n'était qu'un détour pour mieux revenir à terme au communisme, c'est-à-dire un détour pour sortir de la Chine de la pauvreté, mais que la crise économique et financière de 2000-2009 mondiale a montré que la Chine était sur le droit chemin, et donc il faut que la Chine ait une confiance renforcée dans son propre système de développement économique qui la réoriente vers le socialisme et le communisme. Bien sûr, là je paraphrase le positionnement officiel, mais c'est intéressant de le prendre en compte parce que je pense qu'il a été sous-estimé côté européen et américain en pensant que progressivement, la Chine allait s'acheminer vers une économie de marché. On a sous-estimé la confiance que la Chine a non seulement avait déjà, mais la confiance renforcée qu'elle a acquis ces dernières années, aussi à l'initiative d'un dirigeant qui considère que non seulement la Chine n'a plus de leçons à recevoir d'autrui, y compris à l'OMC, mais qu'il est temps pour la Chine de promouvoir à l'étranger son propre modèle.
Alors, Alice Eggman, Jean-Marc Sirouen, il y a évidemment des pays qui tirent parti de cette guerre commerciale entre Washington et Pékin. C'est par exemple le cas du Vietnam.
J'ai vu ce que vous avez réalisé et je suis fier de cela. L'an dernier, nous avons eu une grande rencontre avec des membres que je vois ici aujourd'hui parmi nous. J'en reconnais certains. Et depuis cette rencontre, nous avons conclu beaucoup d'accords commerciaux, que ce soit concernant Boeing ou quelques autres entreprises. Vous allez acheter des produits manufacturés aux États-Unis et nous vous en sommes très reconnaissants car cela va permettre de réduire de manière conséquente notre balance commerciale qui était jusqu'à présent déficitaire comme vis-à-vis de nombreux autres pays.
Voilà, extrait d'un discours de Donald Trump au moment de sa visite, c'était en février dernier, du côté du Vietnam. On va retrouver un nouvel invité, Jean-Raphaël Chaponnière, vous êtes chercheur associé à Asia Centre. Alors visiblement, le Vietnam fait partie précisément de ces pays qui tirent un profit de cette rivalité sino-américaine. Mais justement, est-ce qu'on a une idée d'abord des bénéfices tirés et surtout, qu'est-ce qui relève d'un contexte parfaitement conjoncturel et qu'est-ce qui relève d'éléments, disons, plus structurels, Jean-Raphaël Chaponnière?
Je pense que le Vietnam, c'est pour des raisons structurelles, ça dure depuis assez longtemps. Et le démarrage, c'est un des conflits politiques, mais pas commerciaux, entre la Chine et le Japon. C'était vers 2005, où les entreprises japonaises avaient choisi une stratégie que Nomura a appelée le China plus one, la Chine plus un, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'investir à la fois en Chine et dans un pays d'Asie du Sud-Est. Et en fait, c'était bien sûr le Vietnam. Bien sûr, parce que c'est plus facile, mais aussi il faut se rappeler que le Vietnam avait signé un traité commercial avec les États-Unis en 2001, donc ça facilitait l'entrée sur le marché américain. Et ce mouvement, bon, c'est accéléré avec les hausses de salaire en Chine. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que beaucoup de biens de consommation qu'exporte le Vietnam ont été touchés relativement récemment par les hausses. Donc en fait, on est toujours sur la poursuite de ce mouvement ou de l'anticipation de ces hausses, mais elles sont relativement récentes. Donc on est toujours sur ce mouvement-là, qui est structurel, et qui va sans doute être accéléré avec les hausses des droits de douane. Et sur les 7 premiers mois de l'année, les exportations du Vietnam sur les États-Unis ont augmenté de 30%. Les importations venant de Chine ont baissé de 10%, ça c'est à peu près normal. Les importations américaines venant du Vietnam ont augmenté de 30%, de même que celles qui viennent du Cambodge, mais bien sûr c'est plus, moins important, et le Bangladesh 10%. Donc en fait on n'a pas encore, c'est beaucoup d'entreprises ont sans doute anticipé des hausses de droits de douane qu'on a eues en septembre.
Donc si je comprends bien, le Vietnam en profite assez largement, mais en réalité d'autres pays de la région également. Mais jusqu'où est-ce que le Vietnam peut assurer justement cette dynamique? Parce que pour produire, faut des infrastructures derrière, faut des routes pour assurer le transport, faut des centrales pour produire de l'électricité, faut des habitations pour loger tous les ouvriers. Jusqu'où est-ce que le Vietnam peut assurer justement le glissement d'une partie de la production chinoise sur son propre territoire? Est-ce que les niveaux d'investissement sont suffisants aujourd'hui pour continuer d'assurer une telle croissance dans les prochaines années?
C'est bien évident que le Vietnam a la taille d'une province chinoise. Donc, il ne peut bien sûr pas se substituer à la Chine. Il y a deux éléments qui vont jouer. Un, c'est que, bon, comme vous le dites, on craint que déjà pour l'an prochain, l'électricité ne suffise pas. Donc, il peut y avoir des coups de frein sur l'industrie à cause de ça. L'autre point est beaucoup plus économique, c'est-à-dire que maintenant, le Vietnam est arrivé sur les radars du Trésor américain parce que son surplus sur les États-Unis devient très conséquent, 30 milliards de dollars. Alors, ça n'a rien à voir avec la Chine, mais il a un surplus important. Lui-même, c'est le Vietnam, sa balance courante est en hausse. Et donc, pour le Trésor américain, il remplit trois des conditions d'un pays qui manipule sa monnaie et il est dans la ligne de mire du Trésor.
Donc, ça voudrait dire, ce que vous êtes en train de nous suggérer, c'est que peut-être que demain, le Vietnam fera à son tour l'objet d'une politique de hausse des tarifs douaniers, comme le fait aujourd'hui les États-Unis vis-à-vis de la Chine.
C'est une menace objective, et c'est une menace objective qui a été tweetée par Trump le mois dernier. Si vous voulez, le fait que le Trésor mise sur la ligne de mire, ensuite, si un rapport du Trésor américain dit qu'il manipule sa monnaie, ça donne, en fait, l'autorisation exécutive américaine de faire des hausses de douane. Bon, mais c'est pas assuré, bien sûr, c'est une menace.
C'est une possibilité, c'est une menace qui pèse sur le Vietnam. Mais Jean-Raphaël Chaponnière, est-ce que cette accusation de l'utilisation de la monnaie vietnamienne, le dong, par Hanoï, est justifiée ou non?
Oui, bien sûr, mais c'est le cas de beaucoup de pays asiatiques qui ont toujours fait ça, qui ont joué sur l'évaluation compétitive. Enfin, la Corée a fait ça, d'autres pays ont fait ça. Mais les États-Unis, ils l'ont eu avec la Chine. Enfin, jusqu'au mois d'août, les rapports du Trésor ne disaient jamais que la Chine manipulait sa monnaie, mais elle l'a manipulée beaucoup plus dans le temps qu'elle l'a manipulée maintenant. Et sans doute qu'en août, ce n'était pas justifié du tout. Donc c'est la décision qui est assez politique.
Alors, Jean-Raphaël Chaponnière, dans l'hypothèse où l'administration américaine lance une grande offensive douanière à l'encontre du Vietnam, quelles conséquences concrètes pour l'économie vietnamienne?
Enfin, c'est dans l'hypothèse. Bon, ce sera un handicap pour les exportations vietnamiennes.
De quelle ampleur ce handicap? Non, mais je vous pose la question parce qu'il se trouve que il n'y a pas très longtemps, c'était il y a quelques mois, c'était au mois de juin, je crois, l'Union européenne a signé un accord de libre-échange avec l'Union européenne. On pourrait imaginer que dans l'hypothèse où effectivement les États-Unis se lancent dans cette grande offensive douanière et commerciale à l'encontre du Vietnam, eh bien au fond, Hanoï pourrait espérer compenser un peu le manque à gagner en vendant ses produits à l'Europe.
Oui, bien sûr. La deuxième raison aussi pour lesquels des gens investissent au Vietnam, c'est aussi en anticipation de cet accord qui va mettre à peu près 7 ans pour que des baisses tarifaires sur l'Europe soient effectives. Oui, mais je veux dire, c'est possible, mais bon, le Vietnam, c'est pas la Chine. L'impact de plus d'exportations vietnamiennes vers l'Europe, c'est relativement petit. Enfin, je pense pas que les États-Unis vont avoir une grande offensive sur le Vietnam, mais c'est sûr qu'il y a cette menace qui existe. Ça freinera un peu les exportations vietnamiennes, ça peut les augmenter un peu plus. Mais sur l'Europe, c'est pas encore effectif. Les baisses de droits de douane, c'est sur 7 ans. On n'est pas non plus chose aussi rapide. Mais il y a aussi des bouclages internes. C'est aussi, comme je disais, les infrastructures qui peuvent avoir du mal à suivre. Mais d'un autre côté, ça va faire que le Vietnam va se dynamiser beaucoup plus pour faire des infrastructures.
Et puis l'autre conséquence aussi peut-être, c'est que si le Vietnam se retrouve comme ça dans la ligne de mire de l'administration américaine, d'autres pays de la région vont en profiter, le Cambodge, le Bangladesh.
Oui, c'est ça, oui. Ouais. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que, enfin, comme je dis, le Vietnam n'est pas une alternative à la Chine, le Cambodge est toujours encore beaucoup plus petit, mais cette guerre commerciale, qui en fait ne vient que de commencer sur les biens de consommation, hein, mais qui a été anticipée, bon, elle va effectivement avoir un peu la toute chose égale par ailleurs, ce qui s'était passé en 1985 quand il y a eu la révaluation du yen, et il y a eu effectivement une délocalisation forte en provenance du Japon. Là, effectivement, on a, et sur l'ensemble de l'Asie, je pense que beaucoup de pays asiatiques, bon, le Bangladesh en profite aussi, et d'autres pays peuvent en profiter, la Birmanie, mais ces exportations, alors elles étaient beaucoup plus petites, hein, les États-Unis ont doublé sur les 5 premiers mois. Quoi. Ce qui peut freiner aussi ce mouvement, côté vietnamien, c'est aussi à la fois les hausses de salaire, parce que en 2018, l'industrie manufacturière vietnamienne a créé 700 000 emplois, ce qui n'est pas petit. Hein. Et donc il peut y avoir des tensions, sur, donc des hausses de salaire qui obligent le pays à monter en gamme et à freiner certaines exportations dans la gamme.
Merci beaucoup Jean-Raphaël Chaponnière. Réaction peut-être ici en plateau, en guise de conclusion, Jean-Marc Sirouen.
Oui, j'aurais peut-être deux remarques, deux conclusions à faire. La première, c'est que tout le monde change un peu de modèle. Aujourd'hui, la Chine, le monde, on a parlé de démondialisation. La Chine sent bien les limites de son ancien modèle. Il veut le renouveler. Est-ce qu'il réussira? J'en suis pas tout à fait sûr. Hein. Un des défauts de l'économie planifiée, c'est souvent de surdimensionner. On l'a vu dans l'acier. Peut-être qu'on va le voir demain dans les routes de la soie. Donc c'est beaucoup d'endettement, c'est beaucoup d'investissement. C'est aussi une limite du modèle chinois. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est plus une interrogation. Est-ce qu'on assiste actuellement à une lutte entre grandes puissances, les États-Unis et la Chine, peut-être pour une certaine domination, sinon politique, du moins économique et commerciale, ou à une politique américaine très mercantiliste, tous azimuts, et qui vise un peu tout le monde. J'aurais tendance peut-être à rééquilibrer l'analyse au profit de la deuxième hypothèse.
Alice Ackman.
La conclusion, oui, très rapidement, il y a le court terme, il y a le long terme. À court terme, ces tensions Chine-États-Unis ont des conséquences, voilà, commerciales, économiques directes, mais à long terme, il y a une restructuration de la mondialisation avec la question du découplage qui reste posée. Est-ce que nous nous orientons vers une bipolarisation de la mondialisation? Une chose est certaine, c'est que la Chine n'est pas si isolée et l'on note un rapprochement Chine-Russie significatif et qui est à suivre pour les prochaines années.
Merci beaucoup à nos deux invités, Jean-Marc Sirouen, Alice Ackman, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappellerai Alice Ackman, hein, La Chine dans le monde, qui était paru aux éditions du CNRS. Cette chanson, Come Together, qui a pile 50 ans, c'est déjà pas mal, 50 ans aujourd'hui.
Oh my god.
D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi cette chanson a été écrite, je vous conseille le livre de Couturier, 1969, année fatidique. Bah, justement, Couturier, il arrive.
Le tour du monde des idées. Brice Couturier.
Oui, c'est une chanson qui avait été écrite par John Lennon pour la campagne de Timothy Leary, le pape du LSD qui se présentait, figurez-vous, comme gouverneur de Californie en 69.
Ah bah bon. Moi qui voulais créer un peu de suspense et puis inviter les auditeurs à aller lire votre livre. Alors, Brice, il y a eu longtemps, comme une malédiction, de la 9e symphonie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Oui, Beethoven, vous savez, n'en a composé que 9. Schubert et Mahler sont morts sans parvenir à achever leur 10e. Eh bien, à en croire Ming-Hsin Pei, il y aurait le même genre de malédiction pour les régimes de parti unique. Le cap du 70e anniversaire risquerait de leur être fatal. Le parti révolutionnaire institutionnel mexicain a perdu le pouvoir en 2000, 71 ans après l'avoir saisi. Le parti communiste d'Union soviétique a tenu 74 ans. Le Kuomintang s'est maintenu au pouvoir à Pékin d'abord puis à Taipei durant 73 ans. Et la dynastie communiste des Kim tient la Corée du Nord depuis 71 ans. Et voici que le président chinois Xi Jinping s'apprête à célébrer ce 1er octobre, la semaine prochaine, le 70e anniversaire de la victoire du Parti communiste en Chine. Les dirigeants chinois ont-ils de vraies raisons de redouter ce cap symbolique? Eh bien oui, d'après Min Xinpei, que je viens de citer, qui est un des plus éminents spécialistes des affaires chinoises. Parce que le nouveau leader a rompu avec la prudente diplomatie de ses prédécesseurs. Accumuler des forces et ne pas en faire prématurément étalage afin de ne pas inquiéter ses partenaires, telle était en effet la doctrine léguée par Deng Xiaoping. Xi Jinping, lui, s'est lancé beaucoup trop tôt dans la confrontation avec les États-Unis. Or, ceux-ci conservent une supériorité technologique et militaire indiscutable. Et leur réseau d'alliances diplomatiques, même s'il ressortira affaibli des imprudences de Trump, reste sans égal. Mais c'est surtout sur le plan économique que la Chine aurait du souci à se faire, selon Min Xinpei. La croissance baisse régulièrement. Les sources du miracle chinois sont en train de se tarir. La mobilisation d'une immense armée de réserves de main-d'œuvre est en voie d'achèvement. Les grands plans d'investissement dans les infrastructures arrivent à saturation. L'économie du pays est entravée par l'énorme secteur des entreprises d'État à la productivité basse. La logique économique exigerait de les privatiser, ces entreprises d'État, mais la logique politique, elle, pousse à les conserver, car elles font partie des instruments de pouvoir du Parti communiste. En outre, le passage d'un leadership collectif à l'idéologie pragmatique, à une direction personnelle qui encourage le conformisme, qui réintroduit l'étude du marxisme à l'université, constitue un facteur de risque, le risque d'une erreur politique décisive.
Mais Brice, d'autres analystes ne partagent nullement cette analyse. Ils jugent que ce sont plutôt les États-Unis qui se sont engagés dans un conflit commercial bien imprudent.
Oui, c'est notamment le cas de Stephen Roach, un économiste de Yale qui a été l'ancien président de Morgan Stanley en Asie. Lui, il remonte encore plus loin dans l'histoire du communisme chinois, jusqu'au début de la Longue Marche en 1934, car c'est en effet le repère symbolique qu'a choisi le président Xi Jinping pour cadre de pensée du conflit qui oppose son pays aux États-Unis. Pour Stephen Roach, ce qui fait la supériorité des Chinois, c'est précisément cette capacité à se projeter sur le long terme, alors que les Américains réagissent au coup par coup, sans plan à long terme. Alors, la croissance chinoise faiblit, c'est vrai, elle était de 6,9% en 2017, elle a reculé à 6,6% en 2018, 6,3% sont attendus cette année et 6% tout rond l'année prochaine. Mais enfin, elle reste tout de même spectaculaire et même historique. Le vieux monde occidental pousserait lui des cris de triomphe s'il faisait moitié moins. 740 millions de Chinois sont sortis de la pauvreté grâce aux réformes récentes. Un ralentissement modeste n'est pas un effondrement, écrit Stephen Roach. D'autant que, contrairement aux États-Unis et ou à l'Union européenne, la Chine n'a pas gaspillé, elle, toutes ses munitions monétaires pour doper sa croissance. Alors Trump déclare la guerre commerciale, la belle affaire. L'économie chinoise est bien moins dépendante aujourd'hui envers l'exportation qu'elle l'était hier. 60% de sa croissance actuelle est tirée par la consommation intérieure. Certes, en bloquant l'accès du géant national Huawei à un certain nombre de technologies américaines, Donald Trump a retardé la prise du contrôle par la Chine de la technologie 5G. Mais ces restrictions ont fait prendre conscience aux dirigeants chinois de la vulnérabilité de leur pays. À présent, la Chine met les bouchées doubles pour combler ses manques dans la chaîne d'approvisionnement des produits high-tech. Il lui manquait une industrie des semi-conducteurs, elle l'aura dans 2 ans. Reste le problème de la pollution chinoise, la pire du monde. En 10 ans, ses émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 50%. Le charbon, la source d'énergie la plus polluante, est encore à l'origine de 58% de la consommation primaire. Et elle continue d'augmenter l'année dernière et cette année. Mais à mesure que le secteur tertiaire remplace l'industrie, cela ne peut manquer de s'améliorer. Et les énergies renouvelables, qui comptent déjà pour 4% du total, devraient voir leur part s'accroître régulièrement.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve, demain c'est sur le site de France Culture précisément, et on vous retrouve au micro lundi.